Islam, science, sagesse et tolérance. La religion de tous les temps. Les grands hommes de l'islam, un rendez-vous proposé par Samira Saadouni. Abu Abdallah al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj est né à Tour, dans la province de Fars, située au sud-ouest de l'Iran, à proximité du bourg de Baïza, en l'an 244 de l'Égir, soit en 857 de l'ère chrétienne. Le jeune enfant suit l'enseignement du célèbre soufi Sahel al-Tustari. Al-Hallaj l'accompagne dans son exil à Basra. En l'an 262 de l'Égir, soit en 876 de l'ère grégorienne, Al-Hallaj part pour Bagdad et devient l'élève de Amir ibn Uthman al-Makki. Il reste près de lui 18 mois. En l'an 264 de l'Égir, soit durant l'année 877 de l'ère chrétienne, Al-Hallaj fait la connaissance de Junayd. Sous la direction de celui-ci, il pratique les exercices de la vie spirituelle. Dès son retour de son premier pèlerinage à la Mecque, en l'an 282 de l'Égir, soit en 896 de l'ère chrétienne, Al-Hallaj rompt les relations avec Junayd et la plupart des maîtres soufis de Bagdad. Il se rend à Tostar, au sud-ouest de l'Iran, et il demeure pendant 4 années. Cette période est caractérisée par un désaccord croissant avec les traditionalistes et juristes. Les rapports deviennent tellement tendus qu'Al-Hallaj rejette le vêtement des soufis, Al-Kharqa, et il se mêle au peuple pour prêcher la vie spirituelle. Il parcourt les provinces iraniennes du Khuzestan, situé au sud-ouest de l'Iran, en Khorsana, situé au nord-est de l'Iran. Al-Hallaj pratique la vie spirituelle selon ses propres conventions. Il exhorte le peuple à mener une vie intérieure car elle représente la vraie vie. Al-Hallaj entretient de bons rapports avec le célèbre médecin-philosophe Razès, avec le réformateur Ebu Saïd Junaybi, et même avec des autorités officielles telles que le prince Hassan ibn Ali al-Taoudi. En l'an 291 de l'Égir, soit en 905 de l'ère chrétienne, Al-Hallaj accomplit son deuxième pèlerinage à la Mecque. Il voyage beaucoup, il gagne la sympathie de tout le monde, il se rend en Inde, en Turkestan et même jusqu'aux frontières de Chine. Beaucoup suivent son exemple et beaucoup d'autres se convertissent à l'islam grâce à son rayonnement. En l'an 294 de l'Égir, soit en 908 de l'ère chrétienne, Al-Hallaj va pour la troisième fois à la Mecque. Il y reste 2 années. Al-Hallaj revient de la Mecque. Il s'installe définitivement à Bagdad pour se consacrer à la prédication publique. antiques. Ces thèmes sont toujours porteurs de messages spirituels et métaphysiques. Il expose sa doctrine, il affirme que le but final de tous les êtres est l'union avec Dieu qui se réalise par l'amour, grand A, amour spirituel, lequel exige une action divine transformante et porte l'être à sa condition suprême. Ces sublimes idées ne tardent pas à lui attirer les pires ennuis. Très vite, les docteurs de la loi, les politiciens et même certains soufis s'opposent à lui. Les théologiens lui reprochent d'unir le divin et l'humain. Les politiciens l'accusent de semer le trouble dans les esprits et le traitent d'agitateur. Et les soufis considèrent qu'Al-Hallaj commet une imprudence monumentale en divulguant publiquement les secrets divins à un peuple qui doit ignorer tout de la vie mystique. Finalement, théologien, politicien, tout le monde est contre lui. Pour obtenir une faveur, sentence, ils tiennent une fatwa. La fatwa de Qadi al-Qudat de Baghdad, Ibn Dawud Isfahani. Il affirme que la doctrine d'Al-Hallaj est fausse et met en péril le dogme de l'islam et ainsi le condamne à mort. Al-Hallaj est condamné à mort car il aime Dieu. En l'an 301 de l'Égir, soit durant l'année 915 de l'ère grégorienne, Al-Hallaj est emprisonné et traduit devant le vizir Ibn Issa. L'homme pieux et tolérant s'oppose à son exécution. Al-Hallaj reste en prison pendant 8 ans. Et 7 mois, les choses et les événements se précipitent avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau vizir, Hamid, adversaire acharné d'Al-Hallaj et de ses disciples. Les ennemis de ceux-ci reviennent à la charge et obtiennent une nouvelle fatwa du Qadi Abu Omar ibn Yusuf. La sentence est exécutée et Al-Hallaj est mis à mort le 24 Dhul-Qa'da de l'année 309 de l'Égir, soit le 27 mars 922. Les œuvres les plus importantes d'Al-Hallaj sont Akhbar Al-Hallaj, Al-Diwan, Kitab Al-Tawazin. Le règne abbasside arrive à son apogée, les 3e et 4e siècles de l'Égir, soit les 9e et 10e siècles de l'ère chrétienne. Une rupture s'opère entre soufistes et islam officiel. À cette même période, on assiste à la naissance d'écoles juridiques. Les milieux hanéfites, malikites témoignent d'une constante méfiance et les attaques s'aggravent avec le procès, les tortures et la mise à mort d'Al-Hallaj. Al-Hallaj est victime d'intrigues de palais, mais les causes de sa condamnation sont plus profondes. C'est plutôt cet amour de Dieu et de l'homme qu'il cherche toute sa vie qui va lui porter préjudice. Al-Hallaj, dans son désir d'union, s'attache très vite à une recherche expérimentale d'état spirituel. L'expérience intérieure, avec ses risques toujours possibles d'illusion et d'orgueil, devient l'ultime critère. Or, pour la foi musulmane, Dieu révèle, par l'intermédiaire de ses prophètes, son mystère à l'égard des hommes et il reste inaccessible. Lors de son voyage nocturne et son ascension jusqu'au trône du Très-Haut, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pénètre pas dans le Luhut, c'est-à-dire Dieu en son essence. Wihdat al-Shuhud, c'est l'aboutissement logique d'une soif de Dieu en un seul créateur. Cette présence de Dieu est témoignée dans le cœur fidèle. C'est le houloul, infusion de substance. On ne peut pas être condamné à mort par amour pour Dieu. Et chacun a sa façon d'aimer Dieu. Comme Dieu aime ses créatures. Durant toute sa vie, El-Hallaj témoigne d'un impossible amour qui le mène à la recherche de la vérité. Ce grand soufi, martyr de l'islam mystique, a éclairé une route nouvelle dans la vie spirituelle des hommes de la terre.